Vous écoutez RTL.
15h05, pile sur RTL, largement l'heure de retrouver Flavie Flamand. On est fait pour s'entendre.
Bonjour Anne-Louise. On est fait pour vous retrouver, vous à 16h pile, j'espère en tout cas, pour un prochain point sur l'actu.
À tout à l'heure, Anne.
Merci. On installe le tout à Lego cet après-midi sur RTL. À tout de suite.
15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Quel temps pourri sur une bonne partie de la France. Mais heureusement, on est fait pour s'entendre et on est fait pour garder le sourire sur RTL. Garder le sourire ou le retrouver, c'est notre objectif. Car oui, c'est vrai, c'est un petit peu quand même la Bérésina en ce moment. Mais il est un village d'irréductibles optimistes qui résistent tous les jours entre 15h et 16h sur la première radio de France. Alors bien sûr, pour organiser notre contestation, on fait avec les moyens du bord qu'on a tous en nous, je vous rassure. De la curiosité, de l'intelligence, de l'humanité, de la bienveillance, de la bonne humeur et un furieux sens de l'autre. Restez avec nous, vous allez voir, ça va forcément marcher jusqu'à 16h, aujourd'hui en direct sur RTL. Mais pour l'heure, place au sujet du jour. Il peut être gros, voire surdimensionné. Je vous vois sourire. Il peut être absent aussi, ou blessé. C'est l'ego, l'ego qui peut nous en faire voir de toutes les couleurs et nous aveugler sur nous-mêmes et sur les autres. Alors comment notre ego se construit-il? Est-il un ami? Où est-il un ennemi? Peut-on le travailler? On en parle aujourd'hui avec nos invités. Cécile Guéret, bonjour, bienvenue sur RTL.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, Cécile. Vous êtes journaliste à Psychologie Magazine, partenaire de l'émission qui consacre un article à l'ego dans son numéro en kiosque. Alors, c'est fou quand même, Cécile, parce qu'on a le sentiment que l'ego a mauvaise presse, a une mauvaise réputation.
En effet, quand on pense ego, on pense quoi? On pense égoïsme, égocentrisme, voire égotisme, pour, quand on parle un peu en jargon psy. Et c'est pas des qualités tellement enviables, c'est pas des choses qu'on aurait envie d'avoir, mais je pense qu'on verra ça pendant l'émission. L'ego, c'est nous en fait, donc avec nos bons côtés, nos mauvais côtés, et on est bien obligé de faire avec parce que c'est notre personnalité aussi avec ses aspects positifs.
Voilà, l'ego peut nous sauver de certaines situations, il ne faut pas forcément le faire taire, mais il faut aussi savoir de temps en temps lui fermer son caquet. Laurent Château, bonjour, bienvenue sur RTL.
Bonjour Flavie,
vous
bonjour
êtes
à tous.
Ancien cadre dirigeant, auteur et conseil pour redonner du sens, de la performance et de l'harmonie aux hommes et aux organisations, et enseignant diplômé de Qi-Jong. C'est quoi ça?
Alors Qi-Jong, d'habitude on dit King Kong, c'est tout. Non,
vous
c'est
Qi-Kong. Que...
donc en fait c'est Qi-Kong. Donc il y a différentes traductions. Qi-Kong, c'est le travail de la respiration, le travail du souffle.
Ouais.
Et en fonction des contextes, on le traduit aussi par travail de l'énergie.
Très
donc
bien.
De l'énergie, voilà, il y a une belle énergie aujourd'hui.
Très
donc
bien.
On va travailler ça ensemble, finalement, sans le savoir, on va faire du Qigong ensemble.
Alors du Qigong, qui s'écrit donc Qigong, mon
Qigong,
ego,
oui,
ou Qigong si vous voulez, mon ego, ce héros, 35 techniques pour transformer l'ego en puissance de réalisation et d'harmonie, ça c'est votre ouvrage qu'on peut trouver chez Dangle Edition. Laurent Château, est-ce que justement, on peut par des exercices pratiques calmer un ego surdimensionné, booster un ego en souffrance? Est-ce que on peut prendre soin de son ego?
Le Qigong, dans tous les cas, il y a plusieurs portes pour amener au Qigong et tout le monde aurait intérêt à pratiquer le Qigong, en fait. Mmh. L'ego notamment.
Qigong, on sent aujourd'hui.
Donc, effectivement, je prononcerai Qigong jusqu'au bout de l'émission. Donc concrètement, certains viennent pratiquer le Qigong pour des raisons physiques, par exemple, pour être en bonne santé, parce qu'il
oui.
faut savoir que le Qigong, c'est l'une des 5 branches de la médecine traditionnelle chinoise, par exemple, pour éviter de tomber malade et être en forme.
D'accord. Mais par rapport à notre ego?
Alors par rapport à notre ego, ça peut par exemple installer le calme, le Qigong. Et donc, le Qigong aide à installer le calme à l'intérieur de soi et à installer également une forme de clarté intérieure qui permet concrètement de savoir qui on est et où on va dans sa vie.
D'accord.
Donc là, on retrouve l'ego finalement, et là, on est vraiment au cœur de ce que j'ai évoqué, souhaité évoquer dans ce livre, c'est que pour pacifier l'ego, parce qu'on va en discuter ensemble, l'ego, ce n'est pas forcément l'homme à abattre, hein, celui dont il faut se débarrasser et qui vit à l'intérieur de soi, un peu comme un prédateur, mais au contraire, une force qu'il s'agit effectivement, un, de connaître pour mieux pacifier, avec qui mieux se réconcilier, pour nous faire avancer sur notre chemin de vie. C'est ça que j'ai voulu faire au travers de ce livre, et c'est pour ça peut-être transformer celui que l'on pensait abattre en héros intérieur, pour à nous amener vers le meilleur de nous-mêmes.
Ego, mon héros, c'est cet après-midi, c'est avec vous bien sûr sur RTL. Si vous souhaitez participer à notre émission, nous éclairer de votre témoignage, vous le savez, ici vous pouvez parler tranquillement, on vous attend sur l'antenne d'RTL 3210 ou les réseaux sociaux. A tout de suite.
Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 16h, Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Moi et les autres, moi et ma famille, moi et moi-même, je classe ainsi. Enfin, je m'aperçois que je classe ainsi. Nous écrit-on sur Facebook. Aujourd'hui, on parle de l'ego. L'ego sur lequel rebondit Olivier Douville, notre invité d'hier, qui est psychanalyste, vous le savez, et qui nous écrit « L'ego, c'est un jeu de construction. De temps à autre, la déconstruction est la bienvenue si elle rend disponible à autrui. » On a besoin d'avoir de l'ego, évidemment, pour pouvoir rentrer en relation avec les autres. Encore faut-il que cet ego soit plutôt mesuré et ne soit pas, comme le disait il y a un instant notre invité Laurent Château, une sorte d'ennemi public numéro un intérieur qu'il faut absolument abattre. Il faut calmer les égos surdimensionnés, il faut booster les égos en souffrance. On en parle aujourd'hui également avec Cécile Guéret, qui est journaliste à Psychologie Magazine. Si on devait, Cécile Guéret, définir l'ego, je vais vous poser la question à tous les deux, de quoi s'agit-il ?
Bah, l'ego, alors je vais être un peu, peut-être donner une définition un peu ronflante, mais assez simple. L'ego, c'est je en latin, tout simplement. Donc c'est moi, c'est ma personnalité. Le problème, c'est que on aimerait, et c'est un petit peu accentué aujourd'hui, où on prône le détachement par rapport au monde. On voudrait tous être des personnalités zen, qui prennent les choses bien, avec détachement. On aimerait ne pas avoir ce qu'on peut appeler des dérives de l'ego, qui sont l'égoïsme ou l'égo centrisme. Mais en fait, tout ça, c'est très difficile et presque... on pourrait dire que c'est presque quelque chose d'enfantin. Vous savez, comme les enfants, il y a le mauvais moi et le bon moi, et nous, on voudrait être que dans le bon moi, tout bon et tout aimable. Bon, malheureusement, on est les deux, donc il faut faire avec.
Est-ce que l'ego, ça n'est pas aussi l'estime de soi, tout simplement, Laurent Château ?
C'est l'estime de soi, mais c'est vrai que l'ego, Cécile l'a dit, donc l'ego, c'est je, l'ego, c'est moi. Et lorsque je me suis mis en quête de l'ego et de mon ego, puisque cette réflexion, je l'ai eue à l'issue, après avoir déjeuné avec un ami qui lui-même était bien, bien embêté pour définir ce qu'était l'ego, puisque sa femme lui reprochait d'être trop égoïste, et si vous voyez ce que je veux
ça
dire.
Ça arrive de temps en temps.
Il paraît que certaines femmes disent ça à certains hommes. Bon.
Il paraît que c'est réciproque.
Ben voilà. Et donc, je me suis dit moi-même, comment répondrais-je à cette question et donc, concrètement, donc j'ai fait ma petite enquête, et c'est vrai que je me suis rendu
auprès de votre femme.
Par exemple, je ne voudrais pas que cette entretien devienne trop personnel, Flavie. Donc concrètement, c'est vrai qu'ego rime souvent avec égoïsme et je me suis rendu compte que l'ego, c'est quelque chose qui, globalement, l'opinion publique considère que c'est quelque chose de pas bien. Vous voyez, c'est quelque chose de mal, quelque chose dont il faudrait se débarrasser. Donc c'est très ennuyeux parce que en creusant la question, j'ai récupéré un paradoxe, figurez-vous. Mm-hmm. Le paradoxe, c'est le suivant. Il est très simple. Concrètement, c'est l'ego, c'est moi. L'ego, c'est pas bien. Donc je vous laisse conclure, moi je suis pas bien. Donc vous voyez, donc il y a concrètement quelque chose qui va pas dans la définition de l'ego, soit il est mal nommé, soit il est mal défini, et à considérer qu'on a trop de soi, il y a quelque chose qui est incohérent dans cette conception que nous avons tous finalement, que quelque part on a réussi à nous inculquer, et qui oublie la meilleure part de nous-mêmes. Où est l'ego lumineux finalement dans cette question-là ? Pourquoi cet excès de soi finalement serait-il un tort ? Quelqu'un qui est bon par exemple, qui est naturellement bon, en quoi un excès de bonté est-il nuisible ?
Mais je suis entièrement d'accord avec vous,
figurez-vous. Et l'ego pourtant c'est une partie de la personnalité de l'individu.
Voilà, donc le bon et le mauvais, voilà, comme le disait Cécile Guéret.
Déconstruire complètement le concept de l'ego, dépasser ce que l'on nous a appris, et dépasser les facilités sémantiques.
Mais comment est-ce qu'il se construit l'ego, selon vous, Cécile Guéret ? C'est quoi ? C'est l'éducation ? C'est l'environnement ? C'est une personne tutrice aussi ? C'est un chemin de résilience ?
Bah, c'est un peu tout ça, mais c'est beaucoup, beaucoup pendant la petite enfance, par l'entourage. L'ego, c'est la confiance en soi, c'est l'estime qu'on a de nous-mêmes. Mmh. Et évidemment, les personnes qui nous entourent et qui nous aiment quand on est enfant. Et surtout à cette période très particulière de la toute petite enfance. Vous savez, à partir de 2 ans, quand, par exemple, un bébé fait une bêtise, il a peur de plus être aimé du tout, d'être rejeté par ses parents. Donc ça commence vraiment très très tôt. Hein. Et donc, voir qu'on est aimé même quand on fait des bêtises, qu'on soit petit ou qu'on soit grand, parce qu'il y a ce que vous disiez à l'instant, c'est aussi un chemin de résilience. On peut ne pas avoir vécu ça quand on est petit et le récupérer par notre entourage, nos amis, nos amours. Tout ça se construit toute la vie.
Donc c'est la reconnaissance des autres qui nous donne de l'ego, Laurent Château.
Alors les autres font effectivement partie du parcours. Concrètement, quand on creuse cette notion de l'ego, on pourrait croire que c'est un paquet homogène, mais en fait, par rapport à ce que j'ai travaillé sur le sujet, il y a 2 clés d'entrée par rapport à l'ego. La première clé d'entrée, quand j'ai réfléchi à ce sujet, donc il y a l'ego à la fois, la première clé d'entrée c'est la conscience, l'ego conscient et l'ego inconscient. Mmh. Dans ma personnalité, il y a des choses que je perçois comme étant plutôt bien, plutôt moins bien, donc, et qui sont conscientes. D'accord. Il y a également le côté inconscient. Il y a des choses, une partie de notre personnalité qui ne s'explique pas, à commencer par nous-mêmes. Donc la première porte d'entrée, clé d'entrée pour définir ce qu'est l'ego, ce serait le côté conscient-inconscient. Et la deuxième clé d'entrée, et c'est tout à fait fondamental, c'est le côté force finalement d'unification à l'autre et force de séparation à l'autre. Et ça, c'est tout à fait essentiel. Donc un psychothérapeute comme Thierry Janssen, par exemple, en parle. Il y a à l'intérieur de nous des forces qui vont vers plus de réconciliation à soi, aux autres, au monde. Et à l'inverse, il y a des forces qui vont au contraire vers plus de séparation. Et lorsque l'on parle d'ego par raccourci, souvent on a tendance à ne retenir que ce côté obscur finalement de la montagne, en oubliant complètement le côté lumineux finalement de nous-mêmes. Et l'ego, je serais tenté de dire qu'il n'y a pas un ego, mais plusieurs égos d'une même montagne. Donc, si on prend l'image d'une montagne par rapport à l'ego, eh bien, nous sommes la montagne. Il y a un côté lumineux, il y a un côté obscur, il y a un côté que l'on connaît dans cette montagne, et puis il y a aussi un côté inconnu de cette montagne. Mais nous sommes cette montagne-là, et dans le langage commun et populaire, eh bien, l'ego n'est que la face connue et obscure, finalement, de nous-mêmes.
On va gravir la montagne avec vous. Sophie qui nous écrit « Si vous n'avez pas d'ego, ceux qui en ont vous font disparaître. » On va revenir sur cette notion, parce que l'ego nous sauve parfois quand même de situations où on pourrait tout simplement se faire bouffer dans l'existence. Et Franck qui nous écrit « J'ai vite compris que mon ego ne me servirait à rien, je lui ai donc dit d'aller voir ailleurs et je me porte très bien comme ça. » Donc comme vous le disiez Laurent Château, nous avons plusieurs égos, on va faire un petit tour de ce côté-là dans un instant avec vous sur RTL. À tout de suite.
Vous écoutez RTL.
Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Notre ego est aussi notre allié. C'est un article, un dossier que vous allez pouvoir retrouver dans le Psychologie Magazine actuellement en kiosque avec Karine Viard en couverture. Un article signé Flavia Mazelin-Salvi. Aujourd'hui, nos invités sont Cécile Guéret qui est journaliste également à Psychologie Magazine. Laurent Château qui est auteur d'un ouvrage Mon ego, ce héros, 35 techniques pour transformer l'ego en puissance de réalisation et d'harmonie. Donc ça, c'est très prometteur. J'aimerais, si vous le voulez bien, que vous réagissiez à un message que nous avons reçu de David sur Facebook. Il faut savoir maintenir l'ego à sa juste place, ni trop haut, ni trop bas. Trop d'ego peut rendre certaines personnes imbues d'elles-mêmes, d'où cette fameuse mauvaise réputation dont on parlait il y a un instant. Pas assez d'ego implique que certaines personnes ont du mal à reconnaître leurs propres valeurs et ont tendance à se laisser marcher sur les pieds. Je voudrais qu'on revienne sur cette notion avec vous, si vous le voulez bien, Cécile Guéret. Si on n'a pas d'ego, on se fait aussi bouffer par les autres. Comme l'écrivait d'ailleurs un petit peu plus tôt Sophie.
Oui, oui, David et Sophie, on tape tout à fait juste parce que l'ego, c'est notre confiance en nous en fait, donc c'est indispensable. En fait, le tout de l'ego, pour dire les choses simplement, le tout c'est qu'il soit ajusté à la situation et à la personne avec laquelle on est. Si on est tout le temps à se la raconter, à fanfaronner, c'est pas tout à fait ajusté. Si on est tout le temps à se dévaloriser, à se mettre en dessous des autres, c'est pas ajusté non plus. Et donc, dans les deux cas, ça fonctionne pas. L'idée, c'est d'avoir le bon ego qui convient au bon endroit, en fait.
Oui, mais d'où cette idée qu'il peut être un allié aussi et qu'on fait appel à notre ego dans des situations dont on parle très régulièrement aussi dans cette émission, qui parfois sont des situations de maltraitance, qui parfois sont des situations d'assujettissement. Laurent Château, il faut savoir faire appel dans ces moments-là à cet ego. Et finalement, est-ce qu'on ne peut pas compter sur lui pour se rappeler de tout seul, de lui-même, de se rappeler à nous justement en disant eh oh, et à un moment donné où ça suffit, il faut peut-être réagir.
Évidemment, donc trop d'ego c'est pas bien, pas assez d'ego c'est pas bien non plus. Il y a un principe taoïste qui s'inspire toujours de la nature, donc le principe est la voie du juste milieu. On le comprend assez facilement quand on se dit que s'il pleut trop, c'est une inondation et on voit bien que ça a un caractère excessif qui fait que ça emporte tout. C'est un peu ce qu'on appelle derrière le surdimensionnement de l'ego. J'imagine que c'est l'image de nature qui me vient. Donc c'est quelque chose forcément d'excessif et qui n'est pas souhaitable. Inversement, pas suffisamment d'eau dans la nature, c'est pas souhaitable non plus, parce qu'à ce moment-là, ça s'appelle la sécheresse.
Donc comment est-ce qu'on arrose
donc,
à la bonne dose
forme, absolument, donc il y a tout un travail là-dessus à opérer. Simplement, moi j'ai travaillé, je vous invite en tout cas, par rapport à ceux qui seraient tentés d'éliminer cette question de l'ego, de se poser la question de ce que serait une vie sans ego. Que serait une vie sans ego? C'est une bonne question ça pour le coup. Et ensuite, en raisonnant par l'absurde...
Mais les miennes sont très bien aussi, figurez-vous.
Mais en raisonnant par l'absurde, on peut récupérer aussi, on peut se réconcilier avec lui. Et notamment, une vie sans ego, il y a un double ego, finalement, à ce moment-là, c'est un non-ego. Oui. Donc il y a un non-ego obscur et un non-ego lumineux. Le non-ego obscur, c'est quoi? Donc, quelqu'un qui n'a pas d'ego vis-à-vis de lui-même, c'est quelqu'un qui n'existe plus à ses propres yeux, qui n'existe plus aux yeux des autres et qui n'existe plus,
a fortiori, aux
yeux du monde. Et ces gens-là, vous les croisez tous les jours au coin d'une rue, dans les métros, sur leur carton. Ça s'appelle un SDF. C'est-à-dire que ce sont des gens qui n'ont plus d'ego. C'est le côté obscur,
pardon.
Le côté obscur finalement de l'ego, c'est que ce sont des gens qui finalement n'ont plus de personnalité vis-à-vis d'eux-mêmes, n'ont plus d'existence propre à leur propre
yeux. Oui, mais moi je connais des gens qui ne sont pas forcément... Pardonnez-moi, je rebondis juste sur le lien que vous avez fait avec effectivement des personnes qui sont dans la rue. Enfin, pardonnez-moi, mais j'ai du mal à comprendre la comparaison.
L'ego est une force d'ancrage. C'est une encre qui nous permet de vivre notre vie ici et maintenant.
Ça, je suis d'accord.
Voilà.
Ça, je suis d'accord. Mais moi, je connais des personnes qui sont a priori parfaitement intégrées dans la société, qui manquent cruellement d'ego et qui n'existent pas par elles-mêmes. Enfin,
Tout le monde a un ego. Tout le monde a un ego. Après, effectivement, c'est l'idée d'exister à ses propres yeux,
d'accord,
exister aux yeux des autres.
Oui.
Et voilà. Sinon, on devient...
La transparence, quoi. Hein?
On devient un vagabond à soi-même.
D'accord. Okay.
On devient
donc
un vagabond à soi-même.
C'était cette idée-là. Parce qu'on n'avait pas forcément saisi. D'accord,
donc,
le vagabondage.
Le non-ego obscur, c'est ça.
D'accord.
Et le non-ego lumineux, à l'inverse, c'est effectivement... À suivre finalement une quête de nature pour le coup spirituelle et c'est celle dont parle finalement toute la tradition et les spiritualités d'Orient notamment, d'Inde, de Chine, etc. Et c'est la raison pour laquelle ils ont cette relation finalement à l'ego qui est tout à fait particulière. On pourra éventuellement l'évoquer puisqu'ils nous disent que...
Mais plus rapidement si ça vous dérange pas.
Bien sûr.
le temps file.
Mais voilà, le non-ego lumineux, c'est chercher effectivement à s'abstraire de ce petit ego individuel pour ensuite s'absorber dans une sorte de totalité qui dépasse l'individu.
Cécile Guéret.
Oui, ce que je pense important à rajouter, c'est qu'on fait quand même un peu tous comme on peut, hein. N'oublions
Mais
pas
c'est ça.
Ça.
On compose, hein. C'est pas forcément
ça. C'est un équilibre instable qui change tout le temps. On a tous des moments où on fanfaronne peut-être un peu trop, tous des moments où on se fait peut-être un peu trop marcher sur les pieds. Ça nous arrive tous, je pense. Et ça dépend aussi des moments de la vie. Il y a des moments où on est fragile et des moments où on est plus solide. Donc en fait, l'ego en soi, c'est un mot qui est très difficile à attraper parce que tout ça, c'est en permanence en équilibre et en déséquilibre et on fait comme on peut avec ça.
Nous sommes un peu des funambules de l'ego. On va se retrouver, si vous le voulez bien, pour développer cette idée-là dans un instant sur RTL. N'hésitez pas, appelez-nous, composez le 3210 ou rendez-vous sur les réseaux sociaux. Je lirai vos messages dans un instant sur l'antenne. À tout de suite.
Vous écoutez RTL.
15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Vous savez que vous pouvez nous suivre sur RTL, bien sûr, mais également sur RTL.fr. Quelques caméras sont installées dans ce studio et vous pouvez vous installer à la table des conversations, justement, participer à nos échanges. Et je remercie Fubuki pour le tweet qu'elle vient d'envoyer. Alors, elle doit évidemment nous regarder sur RTL.fr. Magnifique en rouge et noir, Flavie. Merci beaucoup de jouer les Christina Cordula. Vous flattez mon ego aujourd'hui. Fubuki, merci pour ce tweet. Alors, c'est marrant parce que vous flattez cet ego qui était en moi, qui n'était pas forcément très, très en forme pour être honnête aujourd'hui. Et c'est très agréable. Et le rouge étant la couleur du cœur, en fait, en Orient. C'est ça, Laurent Château ? Quand vous êtes arrivé ici, vous avez dit c'est la couleur de la générosité.
Ouais, la couleur de la joie.
De la joie, ça correspond à cette émission.
De la joie, de l'été, du soleil, du sud.
Très bien, voilà. Eh bien, tout ça dans ce studio, dans la première radio de France. Cécile Guéret, on va réagir à un tweet que nous avons reçu de Christelle. Ah, l'ego. Christelle, c'est une warrior. Hein. Je ne pense pas en avoir assez. J'ai l'honnêteté de rester humble. Nous sommes tous égaux. J'ai perdu quelques amis très proches parce que leur ego surdimensionné m'insupportait. À partir du moment où quelqu'un a un fort ego, il traite son prochain avec un dédain qui m'est intolérable. C'est à partir de là que mon caractère trempé ou sale caractère, comme vous voulez, entre en jeu. La personne en question se prend quelques vérités et évidemment fait le mort ensuite. Alors, ce que nous dit Christelle là, d'abord c'est que c'est son ego à elle aussi qui la sauve de situations avec des égos surdimensionnés. Ce qu'elle appelle son sale caractère, Christelle, c'est quelque part son sale ego.
Oui, tout à fait.
Et elle régit les relations entre les gens.
Bah oui, en fait, on a tous des égos et comme on vit ensemble, on est bien obligé de faire avec notre ego et ceux des autres. Bon, alors comment on fait? Ce que je trouve très intéressant dans ce que dit Christelle, c'est que l'ego, la dérive de l'ego, ça peut être ce qu'on appelle en psy l'égotisme. Et l'égotisme, c'est une façon de mettre de la distance avec les autres. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans une sorte de carapace, un carcan, on met de la distance avec les autres. Alors ça peut être très bien, vous êtes face à une personnalité toxique ou à un manipulateur ou à quelqu'un qui vous fait du mal, super, la carapace, c'est très utile et c'est très important de pouvoir la sortir. Mais alors parfois, quand on l'utilise trop ou quand on l'utilise sans même s'en rendre compte, quand c'est devenu figé en fait, un automatisme, l'inconvénient c'est que ça nous coupe des autres. Et là, ça peut aussi nous faire souffrir, en tout cas faire souffrir la personne qui a cette carapace dont elle n'arrive pas à se débarrasser.
On a un message également d'Annick. L'humilité est une qualité, ça n'a rien à voir.
Oui, alors...
On peut avoir de l'ego et être humble, Annick, en fait, Laurent Château.
Oui.
On peut avoir de l'ego et être humble.
Absolument, c'est absolument pas incompatible. Mais la question que ça m'inspire, c'est la suivante. L'ego, ce qu'on est en train de partager, c'est que c'est une force formidable. Mmh. C'est ça qu'on est en train de dire. Mmh.
Simplement, une ressource.
Une ressource, une force, un outil, etc. Mais d'abord une énergie. D'abord une énergie formidable. Soit que l'on met au service de quelque chose. Et au service de quoi ? Et l'ego, quelque part, nous pose et nous force à nous poser la question de à quoi finalement sert mon ego et au service de quoi. Mmh. Et quelque part, ça pose la question du sens. Du sens. Ça pose la question du sens que je donne à ma vie. Concrètement, par exemple, quelqu'un qui met son énergie, quelque part son ego donc, au service d'une cause juste, d'une cause humanitaire, d'une cause philanthropique, etc. Il a un ego, donc il met donc cette formidable énergie égotique, quelque part, au service d'une juste cause et de ce qui fait sens pour lui. Et donc, la question à poser, c'est... Finalement, quel est le sens que je poursuis au travers de ma vie ? Et une fois que j'ai répondu à la question du sens à donner à ma vie, à ce moment-là, je peux guider, orienter mon ego vers ce que j'ai compris être le sens de ma vie.
Voilà, viser grâce à l'ego, viser juste. Oui. Mais ça, c'est pour avoir un ego bien placé. Oui. Est-ce qu'un ego mal placé, c'est aussi un manque de confiance en soi, nous demande Val. Avoir trop d'ego, vouloir briller, être reconnu, admiré, adulé, ne serait-il pas en réalité un manque de confiance en soi ? Est-ce qu'effectivement, quelque part, quand on se la pète, on se fait... Non, mais c'est vrai, quand on a l'ego qui se la pète, est-ce que ça n'est pas parce qu'intérieurement, on n'est finalement pas si assuré que ça ?
Oui, ça peut tout à fait être le cas, bien sûr.
Est-ce qu'on peut simuler l'ego, quoi ? Est-ce qu'on peut se tromper d'ego ?
Oui, on peut considérer que parce que les autres ne nous font pas assez de compliments, finalement, on s'en fait soi-même. Ou parce que on a tellement besoin que les autres nous aiment qu'on leur montre un peu la voie en leur donnant l'exemple, en nous aimant, nous, beaucoup. C'est tout à fait possible.
Aimez-nous. Vous allez parler dans un instant, vous inquiétez pas, Laurent Château. Je vais vous donner la parole. Nous, on va se retrouver évidemment tout de suite sur l'antenne d'RTL. On va faire quelques petits exercices après pour booster notre ego. À tout de suite.
Vous écoutez RTL.
Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Cécile Guéret, on est quand même dans une société qui flatte notre ego, ou on peut en tout cas le flatter. C'est une société hyper narcissique, non ?
Oui, alors hyper narcissique, en tout cas on nous pousse à l'auto-promo, on fait des selfies,
on a nos profils,
on fait des sites perso, des trucs comme ça.
On s'aime.
C'est ça, on s'aime.
On met notre nom partout. Non,
mais
c'est vrai.
Mais en même temps, c'est une énorme demande d'amour et de reconnaissance. Et
donc ça comble un vide, c'est ce que je disais tout à l'heure
ça
aussi.
Ça comble un besoin. Ça comble un besoin, un vide, oui, mais dans le sens où c'est un vide qui n'est jamais comblé, parce qu'on a toujours besoin de l'autre de toute façon. Et ça, c'est jamais étanché, ce besoin-là. Et en plus, quand même, moi je trouve que dans cette société qui est de plus en plus précarisée et de plus en plus violente, pouvoir compter sur soi, il y a quand même un peu de ça dans ce narcissisme-là. Il y a aussi se réapproprier son image et pouvoir compter sur soi. Et bon, après tout, c'est une ressource aussi et ça peut être intéressant.
Laurent Château, comment savoir si notre ego est bien placé ?
Déjà, je crois qu'on a un retour des autres. Il y a une nécessaire introspection effectivement de soi. Puis les autres au quotidien, pour celui qui est un petit peu à l'écoute, eh bien, il voit des messages, qu'ils soient corporels, qu'ils soient donc.
Non, mais clairement, quand on a un ego surdimensionné, notre entourage nous le dit. Quand on dérape,
Que ce soit oral ou donc que ce soit par une communication verbale ou non verbale. C'est-à-dire parfois l'autre parle par son corps, il exprime une forme de dégoût par exemple, il ne dit rien, mais vous comprenez qu'effectivement vous êtes complètement à côté de la plaque et que vous devez travailler effectivement votre ego.
D'accord.
Mais cette idée effectivement par rapport à ce que vous évoquez sur les réseaux sociaux, je crois qu'on cherche un plein à l'extérieur de soi sur les réseaux sociaux, quand à l'intérieur de soi effectivement on cherche à compenser un vide. Donc si on veut moins communiquer sur les réseaux sociaux, faut peut-être travailler le plein à l'intérieur de soi avant de chercher le plein à l'extérieur de soi.
La base, c'est l'intérieur de soi, c'est la réconciliation, nous répétez-vous.
Et l'image de la nature, c'est qu'avant de chercher à produire des fruits, finalement, si je prends l'image d'un pommier, avant de vouloir donner des pommes au monde, sachons effectivement déjà savoir quel arbre nous sommes, croître, grandir, faire grandir nos branches et ensuite produire nos fruits et les apporter au monde et aux autres.
Alors concrètement, avant de manger des pommes, on fait comment pour se réconcilier avec soi-même?
Alors il y a quantité d'outils, hein, donc en fonction effectivement de la conscience que l'on a et de ce que l'on sait devoir travailler, ben, il y a différents outils que l'on peut travailler. Par exemple, il y en a un que je peux citer, c'est l'éclosion des trois fleurs, par exemple, sur le
on se retrouve encore
dans
au
le
jardin.
Livre. Ah mais oui parce que le principe du taoïsme, c'est de s'inspirer chaque fois de la nature, de regarder la nature et ensuite de voir de quelle manière la nature peut nous enseigner à titre individuel. Parce qu'il considère que l'homme est à l'image de la nature.
Alors, ces trois fleurs.
Donc, les trois fleurs, c'est quoi? C'est d'abord, j'identifie par rapport à la question que vous me posez, qu'est-ce que finalement je sens que j'ai besoin de travailler. Et également, qu'est-ce que les autres me reprochent d'être? Typiquement, j'ai trop d'ego, les autres me le disent ou au contraire, ils ne me le disent pas, mais en tout cas, je sens qu'effectivement, il faut que je travaille cette question-là.
Donc, faire un état des lieux.
Donc, état des lieux, voilà. Donc, ça commence par ça. Et ensuite, j'essaie de voir derrière, finalement, cet excès d'ego, quelle est la vertu sous-jacente. Il faut savoir que dans le principe du yin-yang, il n'y a jamais rien de complètement noir, jamais rien de complètement blanc. C'est ce que je disais un peu par rapport à l'ego, qui n'est jamais complètement obscur, jamais complètement lumineux.
Donc en
fait,
tout est motivé, donc essayer de comprendre les motivations.
Les motivations qu'il y a derrière.
Ego.
Concrètement, c'est un peu ce qu'on était en train de dire. C'est quelqu'un qui parle beaucoup de lui, c'est quelqu'un qui veut exister. Mais pourquoi? Parce qu'il a peut-être besoin de dire des choses, de dire des vérités, d'exister, d'apporter au monde. Finalement, il y a peut-être un geste généreux derrière le fait que la personne parle de lui et sans doute trop. Donc, déjà voir quel est le côté lumineux, finalement, des défauts apparents qui semblent être les nôtres.
D'accord.
Donc, pour s'obliger à penser positif, s'obliger à penser lumineux, ça, c'est quelque chose de tout à fait essentiel si on veut avancer sur ce chemin de l'ego lumineux. Et ensuite, concrètement, on essaie de voir le point sur lequel j'ai envie de travailler, c'est l'ego, par exemple. Et à ce moment-là, j'essaie d'identifier les trois actions concrètement, sur le plan corporel, sur le plan émotionnel, sur le plan psychique, que je vais travailler pour effectivement compenser ça.
D'accord.
Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais décider par exemple de m'inscrire à un cours de théâtre pour essayer de calmer le jeu. Peut-être faire de la sophrologie ou du qigong par exemple pour travailler la respiration et pour installer le calme qui ensuite me permettra de mieux prendre conscience de à partir de quel moment finalement je passe dans la zone rouge finalement de l'ego, à quel moment finalement je finis moi-même et je commence finalement à devenir narcissique. Et à partir du moment où l'autre effectivement risque de me reprocher d'être trop ce que je suis. Vous voyez le truc? Donc à partir de là, je décide de mettre en place un plan d'action, un plan de reconquête de mon ego lumineux avec trois actions que tous les mois je piloterai. C'est-à-dire concrètement, je décide de m'inscrire à un cours, par exemple, de sophrologie, et tous les mois, je regarde si effectivement je suis assidu aux séances. Et ensuite, j'essaie de voir si les autres s'en rendent compte. Je demande aux autres, est-ce que vous voyez finalement un changement par rapport à mon comportement?
Est-ce que je suis un peu moins insupportable que d'habitude?
Est-ce que ça va mieux? Ou alors, encore mieux, je pose même pas la question à l'autre et je vois effectivement spontanément l'autre me dit oh, je sais pas ce que tu fais, écoute.
Il y a un truc qui a changé chez toi, c'est dingue.
Tu arrives à écouter ce que je te dis. Et donc, je te dis bravo, et donc je ne sais pas ce que tu fais, mais bravo pour ça.
Non, mais ce que vous êtes en train de nous expliquer, Cécile Guéret, c'est aussi un chemin vers la connaissance de soi, hein, que de s'intéresser à notre ego. Une connaissance de soi qui va nous apporter une certaine paix, mais surtout un engagement vis-à-vis de soi-même. Nous, tous les jours, on le dit dans cette émission, qu'il faut aussi de temps en temps apprendre à s'aimer, apprendre à se consoler, apprendre soin de soi dans un monde qui nous maltraite un petit peu. C'est ce qu'on disait en début d'émission. Voilà, nous, ici, on est des irréductibles optimistes, mais bon, il faut le soigner, cet optimisme. C'est aussi prendre soin de soi que de s'intéresser à cette histoire d'ego.
Oui, tout à fait. On souffre quand même plus de se sentir mal aimé ou pas assez aimé, et donc c'est cet endroit-là qu'il faut soigner.
Mais
on
oui.
a tous chez soi de souffrants, et donc c'est à cet endroit-là qu'il faut faire attention. Mais pour ce qui est de l'ego, quand c'est vraiment pathologique, quelqu'un qui a un ego surdimensionné, qui fanfaronne en permanence, qui n'en a rien à faire des autres, bon, bah, s'il n'en souffre pas, et s'il ne fait pas souffrir son entourage, après tout, pourquoi pas. Mais le problème, c'est que souvent, il fait souffrir les autres autour de lui, et donc c'est parce que ça l'embête de faire souffrir autour de lui qu'il va aller consulter ou se poser des questions sur son ego.
Il y a des dommages collatéraux de l'ego.
Exactement, oui, tout à fait. Parce que l'autre cas, le cas inverse, quand on souffre de ne pas avoir assez d'ego, de ne pas assez se mettre en avant, et tout ça, là, en général, on en souffre soi. Ça nous pose vraiment des problèmes dans les relations aux autres, dans notre vie, dans notre accomplissement. Donc là, on est quand même plus directement concerné et on a envie de faire attention plus à soi.
Alors, on va mettre de côté, si vous le voulez bien, ceux qui se la pètent, mais on va justement donner la parole à ceux qui n'osent pas, qui ont le sentiment que dans la relation aux autres, ils sont toujours dans une position inférieure. Et c'est vrai qu'en boostant ce petit égo, ça fait forcément du bien et ça met du soleil dans les relations. On va se retrouver dans un instant pour en parler sur RTL.
Vous écoutez RTL.
15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Adassa qui résume bien aussi notre conversation du jour. Cultiver un amour propre mesuré, s'aimer soi-même suffisamment mais toujours dans le but d'aimer les autres, voilà la clé. Effectivement, c'est vrai que c'est aussi l'objectif de notre émission, hein, c'est de diffuser vers les autres pour mieux recevoir. Fabrice qui nous écrit: j'ai grandi en jouant au Lego, le jeu. Plus tard, j'ai appris à reconnaître mon ego pour pouvoir affronter ou flatter l'ego des autres. Il faut être bigrement psychologue pour pouvoir l'apprivoiser, notre propre ego. Et alors, Cécile Guéret, quand on a l'ego tout dégonflé,
tout
raplapla, qu'on a vraiment des difficultés à rentrer en relation avec les autres, à s'accomplir dans l'existence, parce que c'est vrai que c'est une entrave, un ego tout dégonflé. Comment on fait pour rebooster tout ça?
Alors, je dirais que ça dépend du degré de raplaplitude, si je peux m'exprimer ainsi.
Allez-y, on vous comprend.
Quand vraiment ça fait souffrir et qu'on sent qu'on n'avance pas dans la vie et que voilà, ça nuit vraiment à notre bonheur. Enfin, on peut être pas loin de la dépression quand même. Là, quand même, le mieux, c'est d'aller consulter, d'aller se faire aider pour voir, avec un thérapeute, avec un psy, qu'est-ce qui s'est passé, à quel moment cet ego a été tellement abîmé et comment est-ce qu'on peut essayer de le regonfler. Mais ça, c'est quand vraiment on va pas bien. Nous tous, on traverse des moments où on a l'ego un peu griffé, ça peut être des périodes, hein, même plusieurs mois ou plusieurs années. Ce que je pense intéressant, c'est qu'on peut vraiment s'appuyer sur nos amis, sur nos vrais amis, sur les gens de confiance autour de nous qui nous aiment et qui nous aiment avec nos moments, nos qualités et nos moments de lumière, mais aussi avec nos défauts et nos moments plus sombres ou pas très glorieux. Et tout simplement leur demander à quel moment on se dévalorise trop ou pour qu'ils puissent nous alerter sur ça. Parce que le problème, c'est que souvent on le fait, on s'en rend même plus compte en fait. Mmh. Et on le fait soi-même. Et ça, c'est terrible, en fait.
C'est de l'automutilation.
Tout à fait. Ce qu'on peut faire aussi, c'est un petit truc qui peut être assez pratique, assez utile, c'est de noter quand on nous fait des compliments. Parce que le problème, quand on a l'ego complètement dégonflé, c'est que même quand on nous fait des compliments, soit, alors, on l'entend pas, on sait même pas où il est passé le compliment, mais alors, on l'a pas du tout réceptionné, soit...
c'est vrai.
Oui, ça arrive, hein, parfois, on a même pas entendu qu'on nous avait fait un compliment. Soit on va pouvoir l'avoir, on l'aura entendu, mais alors... Tout de suite, on va l'invalider. On va tout de suite dire, non mais il dit ça, mais parce que...
Parce qu'il m'aime.
Ou alors en fait, il dit que j'ai un joli t-shirt, mais en fait, c'est pour me dire que je suis... C'est pour ne pas me dire que je suis grosse ou que j'ai une sale tête ou que... Voilà, on sait bien, on est fort, hein, pour faire ça, pour se dévaloriser soi-même. Donc ça peut être intéressant de se faire un petit carnet ou même sur son téléphone, une petite note, et on marque les compliments. Comme ça, on prend vraiment acte, on se note vraiment des compliments et on les garde avec soi.
Voilà, s'engager en fait dans un chemin qui est la reconquête de notre ego. C'est vrai que déjà à la base, Laurent Château, s'engager comme nous l'explique Cécile Guéret, c'est déjà la garantie d'une prise de conscience. Quand on se dit, bon alors attends, maintenant il y a un truc qui va pas, donc je vais essayer d'aller mieux, je vais me redresser. Il faut dire que d'abord un travail vraiment avec un psychologue ou avec un psychiatre aide à rebooster l'ego naturellement, parce qu'on part et on est son propre restaurateur, je dirais, de ruines.
La relation thérapeutique, ça aide beaucoup pour ça, hein, ça soutient énormément.
Voilà, c'est un véritable tuteur. Alors après, est-ce qu'il y a des exercices que l'on peut faire aussi pour mieux s'aimer le matin? Assez rapidement, Laurent Château, s'il vous plaît. Je suis obligée de le préciser maintenant.
Ouais, d'accord.
À part se regarder dans le miroir le matin en disant je m'aime, pas le meilleur des exercices, qu'est-ce qu'on peut faire?
Vous avez dit des mots importants, s'engager, prendre conscience. Je crois que notre ego n'est jamais aussi à plat que lorsque précisément, on ne sait plus trop où on en est, ni où on va. Et à ce moment-là, on prend tout de plein fouet et à ce moment-là, on est ouvert aux critiques. Pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur, il n'y a pas de force opposée qui, finalement, s'oppose aux éventuelles critiques des autres. Donc concrètement, je crois que notre ego n'est jamais aussi en forme, aussi bien finalement à l'intérieur de lui-même, que lorsqu'on s'est posé un certain nombre de questions, d'où introspection, je crois qu'il y a eu un message de l'auditeur là-dessus. Donc en se posant des questions vraies, du style, concrètement, mais au fait, c'est quoi le sens de tout ça? J'y reviens, parce que ça me paraît tout à fait important. Quels sont les objectifs de ma vie? Quelles sont mes valeurs? Quels sont mes besoins? Quels sont mes talents, mes dons?
Identifier ses richesses.
Identifier ses richesses, et au-delà, au sommet de la pyramide notamment, que vous retrouvez dans le livre, c'est quel est mon rêve de vie? Quelque part, c'est ça. Et quand je disais tout à l'heure que notre ego n'est qu'un outil, finalement un héros au service de quelque chose de grand, de beau, de bien, hein, les grandes questions philosophiques finalement de la vie, eh bien plus je répondrai à ces questions-là, plus notre ego finalement sera regonflé dans le bon sens du terme, et plus je pourrai mettre mes compétences, d'accord, tout ce qui fait ce que je suis et ce qui est différent des uns des autres, finalement, au service de ce qui me représente, et à ce moment-là, au service des autres, au service de la vie, au service du monde. Donc cette introspection-là sur le sens à donner à ma vie, il est pour moi essentiel. Et reposons-nous simplement quelques secondes la question du rêve à donner à sa vie. Et pourquoi ? Parce que le bonheur est la conséquence de la réponse à cette question. Donc c'est tout à fait essentiel.
Et on en parlera d'ailleurs prochainement dans une émission sur nos rêves secrets, des voix intérieures qu'on a étouffées, mises de côté, alors qu'elles reviennent à la charge. On va se retrouver, si vous le voulez bien, tout de suite sur RTL.
Vous écoutez RTL.
Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Un message à Lolo qui nous a laissé un message sur Facebook. Il a du mal à analyser son ego. Laissez-nous vos coordonnées en message privé. On vous enverra les ouvrages de nos invités. Cécile Guéret, c'était un plaisir, comme à chaque fois, de vous recevoir aujourd'hui. Donc, je rappelle que Psychologie est actuellement en kiosque avec Karine Viard en couverture et avec justement un article sur l'ego signé Flavia Mazelin Salvi. Merci beaucoup. Merci. À la prochaine. Merci Laurent Château. Mon ego, ce héros. Comment va le vôtre ? Il se porte bien ?
Mon ego vous remercie. En tout
très
cas,
bien.
D'avoir pu partager tout cela et surtout d'être utile.
Merci d'avoir accepté notre invitation. 35 techniques pour transformer l'ego, c'est chez D'Angle Édition. Et puis, merci à Eric qui nous tweete régulièrement pendant cette émission et qui dit, voilà, les auditeurs et moi qui écoutent Flavie tous les après-midi, j'écoute et je m'instruis. Nous aussi, on s'instruit toujours grâce à vous. Merci pour votre fidélité. Demain, on vous donne rendez-vous à 15h en direct sur RTL pour une sorte d'expérience. On va remonter le temps. À quelle époque auriez-vous aimé vivre ? Cro-Magnon, cours de Versailles ou période des yéyés ? Racontez-nous la vie que vous imaginez. En attendant ce soir, ne ratez pas Sidonie Bonnec et Thomas Hugues qui à 20h50 vont vous alerter sur les pirates informatiques qui peuvent entrer dans nos smartphones, dans nos tablettes et autres appareils. Et nous, on se retrouve donc demain dès 15h en direct sur RTL. Tout de suite, voici Laurent Ruquier et à propos d'ego, ils ont des grosses têtes là-dedans. Allez, je vous embrasse et je vous dis à demain sur RTL.
Vous écoutez RTL.